Radio Barque 17e avec nos deux invités du jour, Georges Hortelat et Hélène Hortelat, père et fille d'ailleurs.
L'entreprise familiale.
Il faut, voilà, il faut le signaler. Mais là, on est dans un autre contexte. Alors, vous êtes Georges Hortelat, donc propriétaire d'un certain nombre de domaines. On va entrer dans les détails là-dessus, des domaines viticoles, notamment sur le 14, le plateau du 14, qui est d'ailleurs assez près du centre-ville, c'est la commune de Narbonne. Et alors, quand on veut parler de viticulture, bon, j'ai envie de dire, on a le choix de trouver des responsables de domaines viticoles, mais ce qui m'a intéressé chez vous, c'est qu'il me semble qu'il y a une histoire familiale, au bon sens du terme, justement, et qui me semble aussi assez significative de ce qu'est devenue la viticulture aujourd'hui, quand on la regarde avec 30 ou 40 ou 50 ans de recul. Donc, Georges Hortelat, aujourd'hui, faites-nous un petit bilan déjà de ce qu'est votre propriété, entre guillemets.
C'est sur les domaines, Georges Hortelat. Aujourd'hui, c'est moi, mon père avant moi, et aujourd'hui, donc, mes deux enfants, Hélène et Nelson, qui travaillent ensemble, mais ils sont appelés à s'occuper dans l'avenir de ces domaines. Ils ont un petit peu le même parcours. Je rappelle mon père, donc, que vous-même, Monsieur Jules, avez bien connu, a acheté Notre-Dame du 14 dans les années 64, à son retour d'Algérie, puisque c'était un pied noir. Il avait choisi Notre-Dame du 14, alors l'histoire est un petit peu amusante. Il cherchait des domaines. Le 14 était un terroir extrêmement pauvre, et il avait été séduit parce qu'il y avait des oliviers centenaires, et que l'olivier, pour lui, qui venait d'Algérie, était un arbre qui avait très symbolique.
C'est ce symbole qui l'avait attiré.
Oui, et la deuxième chose, c'est Notre-Dame, donc la Vierge, et mon père avait ramené, parce que quand on est vigneron ou agriculteur, si un jour il y a une guerre et qu'on doit partir, on n'emporte rien sous le bras. Et par contre, il avait ramené une seule chose.
Une statue.
Voilà, la Vierge de son village, Misserguin, qui est aussi le berceau de la Clémentine. Et donc, grâce à un aumônier de marine, il avait pu ramener la Vierge, qui doit faire 1m50 ou 1m80, par un bateau de la marine française. Voilà, donc mon
et
père...
Alors, avait... Et alors, donc, votre père... Alors, Yvon, c'était Yvon Hortelat.
Donc, Yvon a acheté ce domaine, il a agrandi, il l'a mis en valeur, et puis il a commencé aussi à faire quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque, vendre directement son vin.
Exactement, c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai connu, comme beaucoup d'autres Narbonnais.
Tout à fait.
Sur, je le précise, les conseils de mon médecin, ce qui est assez cocasse. Donc c'était un bon label de qualité. Donc votre père, années 60, s'installe à son retour d'Algérie. Bon. Mais alors c'est là justement où l'histoire m'intéresse, parce que moi je me souviens que dans ces années-là encore, on disait à quelqu'un qui travaille mal à l'école, « Sur une bourrougne, on ira se travailler à la vigne. Tu es un âne, tu travailles pas, tu iras à la vigne. » C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il était encore assez fréquent de considérer la vigne comme un pis-aller. Or, ce qui se passe après coup, c'est pas ça du tout. Vous, Yvon Hortelat, vous vous destinez à une carrière, je crois, dans l'informatique. Vous étiez ingénieur dans l'informatique. Et puis, à un moment, vous décidez, non, de pas faire carrière, mais de revenir sur la propriété de votre père, donc de la reprendre et de la développer. C'est-à-dire, c'est une inversion totalement des valeurs, en quelque sorte. Et c'est une sorte de vengeance sur une bourrougne, on ira à la vigne. Ben non, hein. Pour être à la vigne aujourd'hui, il faut pas être une bourrougne, il faut être un vrai professionnel. Donc, à quel moment, expliquez-nous le déclic, vous étiez parti sur tout à fait autre chose.
Effectivement, vous décrivez bien qu'est-ce qu'a été la situation à cette époque. Moi, j'ai un diplôme d'ingénieur, donc j'étais un scientifique. J'ai travaillé en Hollande dans un laboratoire de mathématiques appliquées. J'ai travaillé à Paris. Et en fait, je me suis rapidement aperçu que la vie dans les grandes villes n'était pas ce qui me plaisait le plus, et que la vie au grand air, et puis une aventure, la vigne, et puis les circonstances également. Donc, puisqu'en 83, mon père, alors que j'étais ingénieur, donc me dit qu'il y a un domaine à côté de Notre-Dame du 14 qui était à vendre, et qui était donc tapis, château tapis. était un domaine qui était un petit peu abandonné, voilà. Et mon père me propose de le racheter, et ça pouvait être un placement financier. Et puis, à ce moment-là, j'ai rencontré mon épouse, et je me suis installé définitivement à Narbonne, donc voilà. En 88, j'ai acheté...
Donc là, il y a déjà une vision stratégique de développement.
Oui, dans votre esprit. Mon père avait déjà cette vision stratégique d'un produit qui doit être bon, hein, que le consommateur doit apprécier pour qu'il soit vendu, puisque on est sur le 4 tours, sur un endroit où on ne fera jamais des rendements importants. 40-45 hectares, c'est vraiment le maximum. C'est un terroir très argileux, et puis surtout avec des galets. Donc la vigne a peu de terre pour se développer. Par contre, un climat exceptionnel avec la tramontane, qui est un vent sec, du soleil. Et donc, il s'est positionné très tôt sur des produits de qualité. Voilà. Et la vision stratégique, c'est de dire ensuite, après, c'est aussi les circonstances de la vie. Tapis, ça a été les circonstances. Le Château de Lune, qui a été un domaine merveilleux et d'une beauté incroyable, qui était aussi à côté, qui était complètement abandonné. Et donc, il a fallu des années pour le replanter, pour refaire la cave. Et puis, un petit domaine à Canédode qui provenait de la famille de mon épouse. Et puis le dernier qui est Imis Saint-Antoine, qui est au bord de l'étang de Bages, que nous avons racheté il y a 4-5 ans maintenant, et qui est aujourd'hui une belle réussite commerciale, puisque on a par exemple sur le dernier millésime bio plusieurs médailles, dont une d'or pour le rouge et blanc et rosé en bronze et argent.
Voilà. Donc ça veut dire que vous occupez maintenant une belle surface sur le plateau du 14.
On exploite un peu plus de 100 hectares de vignes, et tout est cultivé donc et certifié en agriculture biologique. Et aussi certifié par Déméter en biodynamie.
Et alors, je faisais allusion, Georges Ortola, au fait que vous, le fils, avez eu envie de succéder à votre père à une époque où c'était pas évident. Ensuite, le problème se repose, puisqu'aujourd'hui est présente à ce même micro votre fille Hélène. À quel moment vous sentez que, dans la famille, ils vont avoir envie de prendre la suite et de travailler avec vous ?
Eh ben, écoutez, c'est un mail, puisque ma fille, donc Hélène, qui... a fini par un master 2 de droit à Narbonne, droit de l'urbanisme.
Donc elle non plus ne se prédestinait pas à la vigne.
Exactement. Et mon fils, qui avait fait des études, un BTS dans la gestion des espaces naturels. Et donc il m'a envoyé un mail pour dire « Mon cher papa, nous souhaiterions reprendre les domaines, donc travailler, apprendre, acquérir de l'expérience. » pour un jour reprendre ces domaines. Et voilà, ben ça se passe bien depuis plusieurs années.
Voilà, Hélène Ortola, alors racontez-nous justement qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là.
Alors dans ma tête, je suis donc en master 2 de droit. Je fais mon dernier stage d'études et je fais mon stage dans des bureaux. Je vois bien que les bureaux, toute la journée, c'est peut-être pas fait pour moi. Je discute avec mon frère et on se dit, voilà, seul, c'est compliqué. À deux, tous les deux, on s'entend très bien. Et on se dit, à tous les deux, on peut tenter le pari de travailler avec nos parents et d'ensuite reprendre les domaines pour les faire évoluer aussi et développer encore un peu plus.
Voilà, et on peut penser que le père a acquiescé assez immédiatement.
Oui, ça a été une surprise, une bonne surprise, et puis quand même aussi quelques inquiétudes, parce qu'on se dit, est-ce qu'on est capable de travailler avec ses enfants ? C'est toujours un petit peu compliqué.
Oui, bien entendu.
Et ben voilà, ben, en tout cas, j'espère que pour mes enfants, ça se passe bien. Pour moi, c'est un plaisir renouvelé chaque matin de se retrouver. Parce que en fait, en réfléchissant un petit peu, on se dit que les enfants, on dit qu'on les perd à un certain moment, parce que s'ils font autre chose ou ils sont très loin, il arrive un moment où on a moins de choses à se dire. Alors que là, en ayant ce projet commun de développer les domaines et donc le vin et sur cet aspect bio et biodynamie, on a tous les matins un projet à discuter. Et ça, c'est merveilleux.
Alors donc on en arrive à ce point de l'histoire où Georges Ortolà, vous avez un domaine, une bonne centaine d'hectares, donc il y a de quoi voir venir. L'avenir se dessine encore davantage lorsque vos deux enfants vous disent « Papa, on veut bosser avec toi ». Et donc ça veut dire qu'on regarde l'avenir définitivement dans ce domaine. Et alors là, vous, au niveau des techniques culturelles, comment ça se passe? Puisqu'aujourd'hui vous êtes dans le bio et dans la biodynamie. Alors, il va falloir que vous nous expliquiez tout ça aussi pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément des spécialistes.
Ben moi, je suis un scientifique à la base, donc j'ai essayé d'examiner et de regarder les choses. Bon, il s'est avéré assez rapidement, après avoir commencé, que cette agriculture qui utilise des désherbants, des produits phytosanitaires, ne me convenait pas, des engrais chimiques. Et surtout donner pas les résultats qu'on pouvait escompter. Donc très tôt, je me suis orienté sur des composts, sur du fumier, sur la réduction des intrants, la non-utilisation de désherbants.
Ce que vous appelez des intrants?
Les intrants, c'est tout ce qu'on va utiliser, un peu ce qu'on pourrait appeler des médicaments, de l'azote pour...
Les engrais, toutes ces choses-là.
Les engrais, etc. Voilà. Mmh. Et ça a été un cheminement assez naturel pour arriver un jour en... Donc ça a été en 2008, on s'est déclaré donc à l'agence bio pour dire, à partir de maintenant, nous serons certifiés bio. Et puis assez rapidement, par des rencontres, par... beaucoup de regards, de voyages dans le monde, on s'est aperçu que la biodynamie qui peut paraître être une technique culturelle réservée à quelques illuminés, voire hurluberlus, en fait, est beaucoup utilisée dans de grands domaines céréaliers, par exemple en Australie, aussi au Brésil. Et puis, on a en France un peu le pape de la biodynamie, qui s'appelle Masson. Voilà.
Oui,
alors... oui, c'est la biodynamie, c'est Steiner qui est à l'origine et qui l'a conceptualisé.
Alors Georges Ortolà, est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, en quelques mots assez simples, faire passer le message, qu'est-ce que c'est que la bio... L'agriculture biologique, ça y est, les gens savent ce que c'est, mais la biodynamie, certainement pas.
Alors la biodynamie, c'est... une couche supplémentaire par rapport au bio, puisque pour être en biodynamie, certifié en biodynamie, puisqu'il y a un...
Il faut passer par l'étape du bio.
Voilà, et c'est certifié par un organisme qui s'appelle Déméter, qui commence à être assez connu, qui est aussi un organisme...
qui fixe les règles.
Qui fixe les règles, il y a un cahier des charges. Voilà. La biodynamie, je dirais que bon, la seule préoccupation, c'est la terre et le terroir. La plante, la vigne, c'est un petit peu comme un être humain, à partir du moment où elle se nourrit bien, elle est bien dans sa terre, elle se défend bien aussi contre les maladies. Puisqu'elle a comme nous un système immunitaire. Donc le bio, c'est-à-dire ne pas utiliser de produits qui vont tuer les micro-organismes, les vers, etc. C'est un moyen d'avoir une terre vivante. La biodynamie, c'est un petit peu, si on faisait une analogie avec la santé humaine, c'est un peu de l'homéopathie, à savoir qu'on va utiliser des décoctions de plantes. Il y a certains traitements qui sont obligatoires, d'autres qui sont facultatifs. Et donc ces décoctions de plantes, on va aller les passer. Alors c'est là que ça devient un petit peu ésotérique. En fait, le vecteur, ça va être de l'eau de pluie. Donc on recueille de l'eau de pluie, nous avons un réservoir d'eau de pluie. Et cette eau de pluie, on va la dynamiser. En fait, on pense que la dynamiser, c'est-à-dire l'agiter. Et c'est dans cette eau de pluie agitée, dynamiser, que l'on va venir faire une décoction, un peu comme une infusion, de ces plantes aromatiques qui vont servir à que la vigne, la plante, se défende mieux contre les maladies et soit plus en, on va dire, en osmose avec le cosmos. Et on va faire tout ça en fonction d'un calendrier biodynamique.
Une notion de phase de la Lune et de
voilà,
tout ça.
Mais il faut juste dire que si on regarde un peu l'histoire, les vieux jardiniers ne plantaient jamais une carotte n'importe quand. Pas plus que les charpentiers de marine ne coupaient le bois
n'importe quand
parce qu'ils savaient que si le bois était mal coupé, il y avait des problèmes et des fois les bateaux coulaient. Donc en fait, tout ça a quand même une réalité. Et puis, dernier élément, on le retrouve dans les vins. Je rappelle simplement, pour donner un exemple, ce sont les sulfites. Les sulfites, c'est le seul conservateur du vin, hein, puisqu'on voit sur les étiquettes qu'on tient pas les sulfites. Et juste pour fixer les idées, par exemple, si vous prenez un vin rouge, le maximum de sulfites que contient un vin rouge, c'est 150 mg par litre en conventionnel. Le maximum que contient un vin rouge en agriculture biologique, c'est 100 mg. Donc on a quand même divisé la dose. Et en biodynamie, on n'est plus qu'à 70. Alors, je disais par exemple, ça c'est vraiment une manifestation très forte du bio et de la biodynamie. C'est simplement que le vin, c'est du jus de raisin, que ce jus de raisin, il a des composés, plus de 1000 composés, et que certains composés sont favorables à la stabilité du jus et du vin ensuite, hein, puisque je rappelle que le vin, si on ne faisait rien, le devenir, c'est du vinaigre. Et c'est pas évidemment ce qu'on veut. Voilà. Et donc, on a vraiment là, hein, une preuve tangible, hein, de l'effet du bio.
Oui, Michel, une remarque.
Et en conservant quand même les mêmes possibilité de garde et de durée, surtout de garde, que des vins classiques.
Même beaucoup plus. Beaucoup plus, parce que en définitive, la possibilité de garde du vin, c'est très lié à ses composants, à ses composés, aux tanins, aux anthocyanes, à tout un tas d'éléments. Il y a plus de 1000 éléments. Et en fait, la garde du vin, c'est lié en fait à une oxydation ménagée, puisqu'on dit qu'on garde, en fait, on élève un vin. De manière à complexifier ses arômes. On pourrait le boire très jeune, hein, mais en fait, le garder en bouteille, la plupart du temps, c'est un élevage, on élève le vin de manière à que ses composés se marient, se complexifient pour créer même de nouveaux arômes, des arômes d'élevage.
Voilà pour ce qui est de la garde, de la longue conservation et de la maturation. Alors, parmi les techniques de culture biologique, il y a des trucs qui sont un petit peu amusants pour les gens qui savent pas trop. C'est la confusion sexuelle pour lutter contre certains insectes. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ces techniques?
Alors, je crois que j'étais un petit peu un précurseur dans la région, parce qu'on disait que la confusion sexuelle ne fonctionnait pas. En fait, un des prédateurs de la vigne et du raisin, c'est le fameux Eudemys ou la Cochilis ou le lia. C'est un papillon qui a la mauvaise habitude de venir pondre sur les raisins. Une fois qu'il a pondu, les œufs deviennent des petites chenilles, et ces petites chenilles ont une mauvaise habitude, c'est de venir grignoter le grain de raisin, et ça devient une porte d'entrée à la pourriture, au botrytis, à d'autres maladies. Et en fait, on va même pas dire un grand vin, mais un bon vin au départ, c'est d'abord un bon raisin qui est sain, récolté à maturité. Et donc la confusion sexuelle, donc ces papillons, le mâle retrouve la femelle, parce que la femelle, en fait, il la sent. C'est pas un parfum, ça s'appelle une phéromone. Et donc c'est comme ça qu'ils se retrouvent pour s'accoupler et pondre. Et en fait, donc la confusion sexuelle n'est rien d'autre que on va saturer une parcelle de vigne de phéromones. Ce sont des petits diffuseurs, hein, qu'on va mettre. Et donc, y en a tellement que le papillon mâle ne retrouve pas la femelle, parce que en fait, le parfum est partout. Et donc, c'est une lutte absolument formidable, hein, pour pas utiliser de produits d'insecticides.
Oui, d'accord. Donc le papillon ne s'y retrouve plus dans son accouplement et dans son développement.
C'est pas un gadget, hein, c'est que dit. Moi,
on ne parle pas de gadget.
Et sur le sujet, enfin, c'était pas que le sujet, mais où j'ai constaté que de très grandes exploitations, on ne peut pas imaginer à quelle échelle, au Brésil, utilisaient ce genre de technique avec des productions en fait en interne, quoi, d'insectes particuliers. Ingénierie particulièrement sophistiquée. Quoi.
Et ça vous semble, Georges Ortola, bien adapté à la vigne, notamment?
Ah, c'est très très adapté à la vigne. Alors, on avait quelques craintes dans la région, parce qu'au début, les gens disaient, mais il y a beaucoup de vent, donc le parfum, il va partir plutôt dans la mer quand il y a de la tramontane que rester. Et en fait, pas du tout, ça fonctionne très très bien. Et après, il y a tout un tas de techniques. Par exemple, l'herbe. Alors, on parle beaucoup d'agroforesterie. Et moi, j'ai la vision que je pourrais donner de l'agroforesterie quand il s'agit de vignes. L'agroforesterie, c'est considérer simplement qu'une forêt, par exemple, n'a pas besoin de produits chimiques pour prospérer. Elle n'a pas besoin d'engrais pour prospérer.
Elle a un cycle
naturel. Elle a un cycle naturel, c'est-à-dire qu'en fait, la terre se nourrit des feuilles qui tombent, du bois, et ensuite qui sont digérées, et ensuite par d'autres plantes qui sont au pied de... Voilà. Et en fait... On a essayé de mettre un petit peu les principes de l'agroforesterie au service de la vigne, en disant, ben en fait, l'arbre dans un champ de vigne, c'est la vigne elle-même. Et donc, on va essayer de lui mettre un environnement. Parce que, jusqu'à présent, un bon vigneron traditionnel, on va dire, c'est 4000 pieds, 5000 pieds, 6000 pieds de vigne, avec pas une herbe autour.
Oui, or là, l'herbe, il en faut.
L'herbe, il en faut. Par contre, il faut certaines herbes. Il faut la maîtriser. Et donc, on va, par exemple, aujourd'hui, ça se fait beaucoup, mais c'est quelque chose que j'ai fait depuis très longtemps, des semis de légumineuses. Alors, la légumineuse, c'est la lentille, c'est le trèfle, la févrole. Et c'est une herbe qui a la capacité de capter l'azote de l'air.
Voilà,
et donc, on va essayer, justement, en cultivant ces herbes, de ne pas utiliser... qui permet de l'azote. On va aussi utiliser, par exemple, nous on utilise des fumiers de bovins. On composte nos propres fumiers.
Voilà. Mais écoutez, merci Georges Ortola, merci Hélène Ortola d'être venue nous parler justement de vos domaines, de l'avenir pour vous, Hélène, notamment de la viticulture, puisque le droit vous a mené à vous impliquer. Et peut-être un tout dernier mot, mais très rapidement, sur la commercialisation. Je crois que vous faites confiance à Vinadeis.
Voilà, la commercialisation, c'était quand je me suis installé, une fois qu'on avait replanté de la vigne il fallait beaucoup d'argent pour créer une vraie commercialisation. J'ai eu la chance, dans les années 90, de pouvoir adhérer à une coopérative qui s'appelle Val d'Orbieu, qui est une coopérative...
Et qui s'appelle aujourd'hui Vinadeis.
Non, la coopérative s'appelle toujours Val d'Orbieu. Oui. C'est une coopérative de second niveau. C'est-à-dire que, en fait, elle a comme coopérateur 11 caves coopératives et 45 vignerons indépendants comme moi. C'est un petit peu sa particularité, d'ailleurs, parce que la coopération et la... Et avoir mêlé les deux, c'était formidable. Et Vinadeis, c'est une filiale, enfin, un actif qui appartient à la coopérative Val d'Orbieu. Et donc Val d'Orbieu est mon service commercial de luxe, un peu comme il est le service commercial de luxe pour 45 autres vignerons caves particulières et 11 caves coopératives.
Ok, parfait. Merci encore une fois, Georges Ortola, d'être venu nous parler, nous initier un petit peu à cette, je dirais presque, la viticulture nouvelle, puisqu'il y a quand même un certain nombre de choses tout à fait, sinon révolutionnaires, en tout cas parfaitement nouvelles, et qui peuvent surprendre les auditeurs. Nous reviendrons dans notre prochain Radio Barque sur un petit peu du classique, puisque nous recevrons le candidat à la circonscription de Narbonne de Monsieur Mélenchon. Alors ça s'appelle la France insoumise. Voilà il s'agit donc de Jean-Hugues Zilberman qui nous expliquera ce qu'est véritablement dans son esprit cette France insoumise. Merci à vous et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.